Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons recevoir Yves Flanck. Il est l'auteur d'un livre intitulé « Transport », publié aux éditions de l'Antilope. Alors, ce livre m'a posé quelques difficultés parce que sur la couverture, j'ai lu « roman ». Alors, je me suis dit, comme on le fait habituellement, je vais entrer dans la lecture du livre, y trouver des personnages et puis suivre la dramaturgie propre à ce livre. Alors, ce n'est pas tout à fait ce que j'ai trouvé. Le livre est composé de 4 séquences intitulées successivement, je prends mes notes, le cri de l'homme brun assis au fond du wagon, le cantique de la femme rousse, le récit de l'homme brun qui n'a jamais porté d'étoile et les rêves de l'homme brun qui n'a jamais porté d'étoile. Alors je dis 4 séquences parce que tout ceci se répond, mais on pourrait presque dire que tout ceci peut être lu de manière séparée, ou peut-être même dans un ordre différent. Mais je pense que l'auteur lui-même ne sera pas de mon avis. Alors c'est un livre qui a retenu l'attention de la presse, puisque il est sélectionné dans le cadre de la sélection que fait annuellement la FNAC. Il est également sélectionné par le Libraire en Seine 2017, c'est l'organisation des libraires parisiens. Et puis, il est également sélectionné pour le prix Wepler, qui est le prix de la Fondation de la Poste. Bonjour Yves Flanck.
Bonjour.
Alors, dans ce que je viens de décrire, y a-t-il quelque chose qui vous choque ?
Non, qu'il me choque. Je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui me choque, mais il y a quelque chose qui manque.
Oui.
Vous avez dit qu'il était constitué de 4 parties, alors qu'il est constitué de 5 parties. La 5e partie, c'est un épilogue très important.
Oui, c'est vrai.
Très, très important, qui donne, selon moi, de mon point de vue, qui donne le ciment aux 4 parties précédentes.
Alors, Il y a une première partie quand même pour un lecteur, qui est assez éprouvante. D'abord, je vais dire que le livre est remarquablement écrit. C'est un véritable... Mais c'est le paradoxe. C'est un véritable plaisir que de vous lire. Mais en même temps, dans cette première partie, le plaisir, c'est le plaisir d'une descente aux enfers. Ça se passe dans un wagon. On imagine que c'est un wagon de la déportation. Et on l'imagine avec des indices très précis tout au long de cette séquence. Et on se dit quand même, malgré son âge, cet écrivain-là n'a pas pu connaître cette période. Pourquoi éprouve-t-on le besoin d'aller si loin dans cette descente aux enfers, alors que c'est un événement qui, pour vous, est historique? C'est tout, en apparence.
Oui. Pourquoi écrit-on? On pourrait d'abord se poser cette question. Pourquoi écrire? Pour moi, la littérature, c'est pas mon premier livre. Pour moi, la littérature, c'est un partage d'émotions. C'est un peu comme le théâtre, puisque je suis aussi acteur et que j'ai créer une compagnie de théâtre intime qui fait beaucoup de théâtre chez l'habitant. Donc moi, ce qui m'intéresse dans les arts en général, que ce soit la littérature ou le spectacle vivant, c'est la naissance et le partage des émotions humaines. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que les 3/4 de ma famille a été exterminée dans les camps. Donc je dirais que peut-être ça suffit peut-être à justifier aussi le fait que j'ai choisi ce sujet-là. Et puis le troisième aspect, pour vous répondre, c'est que moi je m'intéresse surtout aux détails. Mmh. Parce que ce qui s'est produit dans l'histoire, y compris dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a été écrit, réécrit, il y a eu des milliers de livres de très grands historiens sur le sujet, de romanciers aussi, pour ne citer que Patrick Modiano, par exemple, mais ce n'est pas le seul. Mmh. Et donc, moi, mon objectif, ce n'était pas du tout de refaire un énième livre sur la Shoah, hein, sur l'extermination des Juifs d'Europe. Non, mon objectif, c'était de se mettre à la place des gens qui ont vécu ça. Un homme, une femme, un enfant, qui sont trois de mes personnages, il y en a d'autres. Hein. Qu'est-ce qu'en réalité, j'imagine, puisque c'est une fiction, qu'ils éprouvaient dans ces conditions-là? Ça, c'était la raison de ma première partie, hein, le cri de l'homme brun assis dans le wagon. Et effectivement, cette première partie, elle saisit. C'est-à-dire, oui. Il y a beaucoup. Le livre rencontre beaucoup d'avis très très favorables, à la fois au niveau des critiques littéraires, des journalistes littéraires, mais aussi des libraires et des lecteurs. Mm-hmm. J'ai beaucoup de retours. La dernière newsletter des libraires là qui vient de paraître met transport en exergue. Et effectivement, certains libraires parlent de chefs-d'œuvre. Moi, je ne vais pas jusque-là, mais enfin, bon, s'ils en parlent, moi, je reçois ça avec grand plaisir. Et des lecteurs et des lectrices sont effectivement sidérés, notamment par cette première partie. Et il y en a même qui n'ont pas pu aller plus loin que la deuxième page, parce que c'était trop émouvant, trop fort. Cette description de ce qui se passe dans ce wagon, avec le style que j'ai bien voulu y donner. Hein. Mmh. C'est-à-dire un style, vous avez vu peut-être, hein, probablement, un style très, disons, haché, sans beaucoup de respiration, pour accentuer le caractère complètement anormal, anti-humain de ce qui se passait dans ces moments-là. Voilà. Ensuite, ça c'est ce que j'appelle finalement la vision noire. La vision obscure, pour ceux qui ont vu la guerre des étoiles, la force obscure de ce que représente l'espèce humaine. C'est la mort au sens premier du terme, mais pas la mort immédiate, la mort à petit feu. C'est mon Thanatos de mon livre. Et puis ensuite, j'ai imaginé que cette femme qui était dans le wagon, elle, pour se consoler, pour se raccrocher à une bouée, pour ne pas sombrer tout de suite, eh bien, elle s'est rappelée de ses moments les plus intenses de son existence, c'est-à-dire de ses moments d'amour et d'érotisme. Et c'est ça le cantique de la femme rousse. Mm-hmm. Ce sont les deux premières parties qui se répondent. C'est mon Eros, et puis qui répond à mon Thanatos. Et puis ensuite, on reparlera, si vous voulez, des troisième et quatrième parties.
Oui, d'ailleurs, il y a un passage dans la première partie où cette femme veut absolument sortir de ce wagon, et elle essaie de le faire d'une manière qui paraît dérisoire, puisqu'il y a juste une lucarne. Elle imagine qu'elle pourrait peut-être s'évader par là, sortir de cet enfermement. Et on se dit, mais peut-être qu'elle y réussit d'une certaine façon, et son esprit sort de ce wagon. Et donc, la suite, c'est au fond un moment d'illumination, de révélation à travers ce cantique des cantiques qui reprend... Alors, dans une forme d'écriture très particulière, qui reprend certaines phrases prononcées tout au long de la première partie, en bas de page, en référence avec le haut de page, les hauts de page qui se répètent, « mon amour », etc. Et donc, on a l'effet de chant qui se produit, et qui est donc, cette femme prend une dimension... c'est l'issue, quoi, par rapport à ce moment noir que vous nous faites éprouver dans la première partie. Tout à coup, on est dans un moment de véritable illumination et de... Alors là, dans la première partie, vous écrivez avec des détails. Au fond, il y a l'horreur ne surgit pas de vision particulièrement horrible. L'horreur surgit du détail, de la petite chose. Vous ne vous interdisez rien. Vous décrivez dans les moindres faiblesses, j'allais dire, et ce qui se passe jusqu'à la mort de certains des résidents de ce wagon. Et de la même façon, dans le cantique de la femme rousse, là, vous ne vous interdisez rien non plus, puisque vous mêlez à la fois un univers sentimental, lyrique, avec le détail érotique, sans jamais que les deux chants se contaminent. Enfin, il y a une espèce de conjugaison absolument merveilleuse entre le lyrique et l'érotique.
Oui, c'est ça. Vous avez fait quelque chose qui me fait très plaisir. Dans votre présentation de la deuxième partie du Cantique de la femme rousse, vous avez dit, ça vous a échappé, vous avez dit, dans cette partie du cantique. Et ça me fait très plaisir parce que j'ai un de mes spectacles de théâtre qui s'appelle... qui est un spectacle en hommage au plaisir du vin, qui reprend certaines parties du Cantique des Cantiques. Mais c'est bien de faire ce rapprochement, dans votre esprit en tout cas.
C'est évident.
Entre ce que raconte cette femme, d'ailleurs, il semblerait, c'est pas encore avéré, hein, tous les experts ne sont pas d'accord, il semblerait que le Cantique des Cantiques ait été écrit par une femme. C'est les dernières avancées dans ce domaine. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est vrai que dans cette partie Eros, cette femme qui se rappelle ses étreintes amoureuses et érotiques, ce qui lui permet de s'évader de l'horreur dans laquelle elle baigne, se rapproche par certains côtés de ce grand plaisir amoureux que décrit le Cantique des Cantiques, par moment. Voilà. Et c'est vrai que je n'épargne, en tout cas, quand vous dites que je n'épargne aucun détail, c'est vrai que c'est ça qui m'intéresse, ce sont les détails. Mmh. Mais je ne m'autorise pas à enfreindre quand même une règle qui serait de passer du côté de l'obscénité, par exemple. Je reste, en tout cas c'est ce qu'on m'a dit et que beaucoup de lecteurs m'ont dit, que je reste, y compris dans cette partie érotique, dans des domaines qui sont les domaines de l'amour et de l'érotisme. Même si je m'attache à décrire des détails.
Mais c'est ce qui fait la qualité, excusez-moi, mais la qualité de votre livre. C'est-à-dire que dans la première et la deuxième partie, de la même façon, parce que dans la première partie, le détail aurait pu être aussi obscène que le détail dans la deuxième partie. Dans la description de la déchéance, on peut atteindre les mêmes degrés d'obscénité. Et ça n'est jamais obscène. C'est justement décrit... Alors, je ne sais pas si c'est de la distance mais ou de l'empathie. Il y a une espèce de manière d'écrire qui fait qu'on est véritablement dans ce wagon et en même temps, on a suffisamment de recul pour comprendre l'horreur de ce qui est en train de se passer.
C'est vrai. Mais bon, si vous le pensez en tant que lecteur, ça me fait plaisir. Mais chaque lecteur a sa propre lecture.
Bien sûr.
Là, il m'arrive de faire... Donc, la semaine prochaine, je vais toute la semaine à Paris pour faire des lectures et des présentations et des émissions de radio aussi. Il m'est arrivé de faire quelques lectures déjà. Et en général, moi, je ne peux pas répondre à des questions de journalistes en dehors du fait de faire une lecture. Je dis... bon, je vous réponds tout à fait volontiers à vos questions aujourd'hui, mais je pense que le plus intéressant, le plus important pour un lecteur, c'est pas ce que je raconte là, c'est ce que j'ai écrit. Et je m'en aperçois ça quand je fais des lectures publiques. En fait, quand je fais des lectures publiques, je ne réponds pas à des questions au départ. C'est-à-dire, je lis pendant une demi-heure, je choisis des textes, une des parties de ces textes, et je lis. Et en général, les gens sont assez sidérés. Et quand j'ai fini la lecture, il y a un grand, grand moment où rien ne se dit, quoi. Où il y a une espèce de silence protecteur, à la fois protecteur, mais aussi le temps que les spectateurs, les auditeurs sortent de leur sidération. Et ensuite, les premières questions peuvent s'autoriser. Mais ce sont des questions auxquelles, en général, je ne réponds que par une nouvelle lecture. Vous savez, chez les Ashkénazes, c'est les Juifs Ashkénazes, dont je suis issu. Il y a beaucoup de blagues, enfin, il y a beaucoup d'humour, parce que c'est de l'autodérision, beaucoup. Hein, voilà. Et on dit souvent que les réponses aux questions, ce sont des questions.
J'allais vous dire, mais c'est aussi comme ça que procède le rapport au divin chez les Juifs. C'est-à-dire que le Dieu est question.
Donc, oui, alors il se trouve que moi, je suis issu d'une famille plutôt athée, de culture certes juive ashkénaze, mais très athée depuis au moins deux générations. Mais oui, c'est vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que plus que des questions, c'est des commentaires. Et puis on fait des commentaires de commentaires. Et puis on passe son temps à, voilà, à commenter le livre, ce qui est écrit dans le livre sacré des Juifs religieux. Et alors, quand on parle de... Après, quand on a transposé ça dans le domaine de la sécularisation, c'est-à-dire quand on projette ça sur des gens athées comme moi, eh bien, ça se retrouve dans l'humour et la dérision. C'est l'équivalent des questions sur le Dieu ou les commentaires sur les livres sacrés. Eh bien, quand je transpose ça dans la vie des, voilà, des gens qui ne croient pas, c'est plutôt, ça se traduit par de l'humour et de la dérision. Et ça, c'est très agréable.
Alors, les langues sont importantes dans la première partie et dans la deuxième partie, puisque c'est souvent les phrases... Tout ce qui est parlé est en italique. C'est le choix de l'éditeur ou le choix de l'auteur ?
C'est le choix de l'éditeur. Mais je l'ai accepté.
Oui.
Bien sûr. Oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs langues qui sont parlées dans mon imagination, hein, dans ce livre. J'imagine que dans ce wagon, effectivement, il y a une centaine de personnes et il y a une dizaine de langues différentes. Donc j'ai essayé de traduire ça de l'italien, de l'espagnol, de l'hébreu, du yiddish, de l'allemand, du français. Voilà, j'ai dû en oublier une ou deux encore.
Ce qui donne à ce wagon un côté à la fois irréel et universel.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Irréel, je ne sais pas, parce que... Bon, les gens qui se sont intéressés quand même historiquement à ces questions savent que les premières personnes raflées par les policiers français qui agissaient au nom de l'État français, s'il était sous le joug des nazis allemands, mais les premières personnes qui ont été raflées et donc mises dans des wagons, c'était des juifs étrangers. Et puis, parmi les juifs étrangers, il y avait aussi des gens qui avaient combattu pendant la guerre civile en Espagne. Il y avait des gens qui étaient donc revenus en 1939, qui parlaient beaucoup espagnol. Et puis, il y avait des gens qui avaient fui le fascisme italien et qui avaient été raflés aussi, et qui étaient juifs ou pas, d'ailleurs. Et donc, voilà, ils parlaient italien, espagnol. Et donc, ça donne voilà, ce sentiment d'universalisme dont vous parlez, mais pas d'irréel. Moi, je crois qu'au contraire, c'était vraiment un réel de Babel, quoi.
J'allais vous le dire, c'est une espèce de tour de Babel ambulante. Mais enfin, il y a quand même une concentration qui a un petit côté, alors peut-être pas irréel, mais qui va vers le signe. Ça fait signe quand même, ce nombre de langues. Et en même temps, ça lui donne ce côté extrêmement donc universel, d'autant plus que après, dans les fameuses phrases qui peuplent le bas de page du cantique de la femme rousse, là, ces phrases en langue étrangère se reproduisent et servent un peu de fil rouge à quelque chose qui se redéroule sous nos yeux avec le cantique au-dessus.
Oui, c'est-à-dire que cette femme songe à ses amants, à ses étreintes, mais en même temps, de son oreille gauche, elle entend vraiment ce qui se passe réellement dans le wagon. Donc, ce que disent les gens, que ce soit dans toutes ces langues, mais aussi beaucoup en français ou en yiddish, hein, surtout.
Et alors, c'est ça qui fait le lien, au fond, du livre. C'est parce qu'on pourrait, si on n'avait que le texte et pas ces phrases-là, il y aurait une sorte de hiatus entre les deux séquences.
C'est en tout cas, moi, j'ai voulu les y mettre pour maintenir le lien, pour ne pas faire deux choses totalement indépendantes l'une de l'autre, parce que j'aurais pu écrire deux choses indépendantes, mais ce n'était pas ça mon objectif. Je voulais qu'il y ait toujours ce fil qui retient cette femme dans le wagon dans lequel elle est transportée.
Alors après, donc, il y a deux autres séquences, avant qu'on voit la dernière que j'avais oubliée, mais que j'avais en tête quand même, qui sont ce fameux homme brun. Alors, c'est, je suppose, le narrateur que l'on a identifié dans la première partie du texte et qui n'a jamais porté d'étoile.
Oui, alors la troisième partie, c'est ça. C'est le récit de l'homme brun qui n'a jamais porté d'étoile. Mais ça peut être le narrateur, ça peut être l'homme brun du wagon de la première partie, mais ça peut être totalement quelqu'un d'autre. Moi, je laisse au lecteur la liberté d'interpréter qui est cet homme qui parle. Moi, ce qui est très important dans cette troisième partie, c'est, vous l'avez souligné dans son titre, c'est le récit de l'homme brun qui n'a jamais porté l'étoile. Et c'est très important, ça, pour moi, parce que, rappelez-vous qu'historiquement, les personnes qui ont été les premières victimes et qui ne sont jamais revenues, c'est celles qui ont porté l'étoile.
L'étoile, bien sûr.
Et celles qui ne l'ont pas portée, bah, elles ont pu passer au travers des mailles du filet.
Mmh. Il y avait une sorte de c'est même étrange que des gens aient accepté de porter une étoile.
Non, c'est pas étrange. Ça a été aussi décrit par beaucoup d'historiens, beaucoup de témoins.
On promettait beaucoup de choses.
Non, en fait, ce que je pense, moi, c'est que les Juifs français, qui étaient ici depuis parfois des générations, pensaient qu'ils étaient assimilés. C'était un peu comme les Juifs allemands, avant que Hitler n'arrive au pouvoir. Hein, des gens qui pensaient que la culture française, en l'occurrence, les avait totalement assimilés. Et ils avaient ce sentiment qu'obéir, obéir y compris à une loi scélérate comme une loi de Pétain qui imposait aux gens de porter l'étoile jaune, eh bien, c'était quand même, il y avait quand même un fond qui disait, mais puisque c'est l'État qui nous le demande, on va le faire. Et c'est cette espèce de fidélité aux principes qu'ils pensaient encore être les principes de la France. Et là, ils se trompaient, bien sûr. Mmh. Mais certains ne voulaient pas passer outre.
Et ceux qui ont passé outre, souvent se sont sauvés.
Souvent se sont sauvés, oui.
Alors cet homme brun, il rêve.
Oui.
Il a des rêves. Et dans cette partie-là, vous avez des expressions assez dures sur ce qui se passait dans ces temps-là, comment la vie pouvait se dérouler comme si de rien n'était presque.
Oui, alors ça, je dirais que ce n'est pas forcément dans la quatrième partie, les rêves de l'homme brun. C'est plutôt toujours dans la troisième. Oui, effectivement, moi, j'ai voulu décrire, là, plus sous un aspect documentaire, j'ai voulu métaboliser tout ce que j'avais lu sur ces sujets-là. Lu, vu les principales œuvres cinématographiques, les principaux livres et les témoignages. Et j'en ai effectivement gardé un sentiment qui était celui d'une grande injustice. C'est-à-dire que pendant que des gens, des enfants, des femmes, des hommes, des vieillards étaient raflés et emmenés dans des chambres à gaz, eh bien, il y avait d'autres qui continuaient à jouer à la comédie française, qui se plaignaient qu'ils avaient trop froid, qu'ils n'avaient pas assez à manger, et qui continuaient, voilà, de se promener dans les rues. Moi, j'ai trouvé ça d'une très, très grande violence et d'une très grande injustice. Parce que, après la guerre, souvent, certains ont dit « on ne savait pas ». Donc, on ne pouvait pas savoir, mais je pense que tout ça est une vaste excuse et une vaste fumisterie.
Alors, d'ailleurs, vous citez une chanson de Maurice Chevalier, qui est absolument terrible.
Terrible. D'ailleurs, je voulais la citer en entier, mais mes éditeurs m'ont dit que pour des problèmes de droit, on ne pouvait qu'en faire deux extraits. Parce que le texte en entier est terrifiant pour ceux qui vivaient ce genre de peur, d'effroi au quotidien. Avoir quelqu'un, un chanteur comme Maurice Chevalier qui chantait des choses comme ça, c'était terrible.
Mais c'est encore terrible quand on le lit, ça fait un peu froid dans le dos quand même.
C'est vrai.
Donc là, il y a des... Sans appuyer la charge, là, vous avez quand même il y a des moments qui sont extrêmement durs pour ces gens qui ont, au fond... Pas simplement ceux qui ont collaboré, mais ceux qui ont ignoré ou qui ont faim d'ignorer ce qui se passait.
Oui, je pense que les indifférents sont les gens les plus redoutables. L'indifférence, c'est ce qui est le plus redoutable dans ce genre de situation. Parce que les victimes, évidemment, sont les victimes. Les bourreaux sont les bourreaux. Ils ont une idéologie, une théorie qu'ils publient, d'ailleurs, qui est à la connaissance de tous. Un Mein Kampf était publié très tôt et que tout le monde pouvait le lire. Et l'idéologie de l'extrême droite française était connue depuis très tôt, depuis après la Première Guerre mondiale, même avant, du temps de l'affaire Dreyfus. Et depuis l'affaire Dreyfus jusqu'aux années 30, puis 40, on connaissait exactement l'idéologie de l'extrême droite. Et on savait ce qu'elle était prête à faire. Mais le plus redoutable, c'est l'indifférence. C'est-à-dire les gens qui... Oh, finalement, comme les concierges, par exemple, que je décris parfois dans mon livre, se précipitaient dans les appartements qui venaient d'être libérés par les gens raflés pour voir s'ils voulaient récupérer quelque chose. Mmh. Voilà, c'est ça que je trouve.
Il y a d'ailleurs un portrait d'une concierge qui est absolument terrible. Une personne, au fond, bien sous tout rapport, en temps normal, et puis qui, tout à coup, s'avère être une affreuse créature.
Ouais.
Alors, on va passer sur les rêves, parce qu'il ne faut pas tout dire non plus, tout déflorer. Et puis, arriver à ce fameux épilogue des grands-mères. Est-ce que là, c'est la partie autobiographique qui explique le livre ?
Écoutez, chaque lecteur fera lui-même donnera lui-même son explication. Pour moi, c'est une partie très importante parce que, bon, évidemment, mes grands-mères qui ont été assassinées dans les années 40, je les imagine. Et donc, je les imagine comme ça, comme les lecteurs le découvriront. Et ça me plaisait de les imaginer comme ça, comme des personnes extrêmement vivantes et colorées. Et en leur rendant un hommage en ayant écrit ce livre.
C'est un livre hommage, c'est un livre qui règle quelque chose pour vous ?
Ah non, ça ne règle rien du tout. Moi, je suis complètement désillusionné sur l'espèce humaine depuis fort longtemps, depuis d'ailleurs la Shoah. Beaucoup d'écrivains, d'artistes, même de philosophes, d'intellectuels ont dit que c'était très difficile d'écrire encore de la poésie après la Shoah, et je pense qu'ils avaient totalement raison. Et il a fallu que j'attende plus de 65 ans pour écrire ce texte. Je ne m'y étais pas du tout autorisé auparavant. Donc ça ne règle rien. Mais ça, en tout cas, pour les jeunes générations, je dis jeunes, disons les moins de 50 ans, pour les moins de 50 ans, je pense que c'est fondamental maintenant de laisser des traces de ce type-là, même si ce sont des traces de fiction, même si ce ne sont pas des traces a priori historiques, qui viennent en complément donc des traces historiques, des historiens. Parce que je pense que maintenant, je parlerai plutôt du présent, on va vers des temps qui me semble un peu sombre, et que si on ne se rappelle pas ce qu'on a pu vivre dans les années précédentes du XXe siècle, on peut prêter le flanc aux plus grandes catastrophes. Et ne serait-ce que pour ça, je suis content d'avoir écrit ce livre, qui n'est pas du tout, comme vous l'avez vu, un livre historique. Hein. C'est un livre de littérature, de fiction, qui s'attache aux êtres humains qui sont pris dans ces tourmentes-là. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de transmettre ce genre de littérature, notamment aux plus jeunes.
Eh bien, il y a beaucoup de livres, effectivement, vous l'avez dit, qui ont été historiques, qui ont été écrits. Mais je pense que ceux-là, les livres de fiction, sont plus efficaces que les livres historiques. Non pas qu'ils les rendent inutiles, les historiques, mais il y a une façon de vivre les choses dans la littérature qui... donne un choc que ne donnent pas les livres historiques. En tout cas, c'est le cas de votre livre que je trouve absolument remarquable et que je ne saurais trop, mais alors inciter nos auditeurs à aller le lire et le relire. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, je vous rappelle que le livre de Yves Flanck, Transport, est publié aux éditions de l'Antilope. Je vous signale également que le Goncourt et le Renaudot ont été attribués cette semaine et que c'est Éric Vulliard qui a eu le Goncourt pour l'Ordre du jour chez Actes Sud, qui est un livre sur lui aussi la déportation et les événements, on va dire la collaboration des entreprises allemandes à la guerre et à l'invasion nazie, et que c'est également un peu sur le même sujet que Olivier Guez a obtenu le prix Renaudot avec La disparition de Joseph Mengele chez Grasset. Et puis, pour ceux que ça intéresse, eh bien, vous signalez que dans le numéro de Libération de lundi, il y a un dossier assez intéressant sur l'écriture inclusive. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, eh bien, c'est une façon d'écrire les mots en mettant en permanence le masculin et le féminin. Alors, ça ne va pas simplifier tout à fait l'écriture, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est une façon, il faut se poser la question et peut-être tenter d'y répondre pour établir une égalité entre masculin et féminin. Ceci dit, se posera la question du pluriel, qui va triompher, le masculin ou le féminin ? À la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.